Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Salut à toutes et à tous, c'est François Lay et vous êtes sur Serial Entrepreneur, le podcast des entrepreneurs. Pour celles et ceux qui découvrent le podcast aujourd'hui, depuis 2017, l'objectif de Serial Entrepreneur est simple. Mettre en avant des entrepreneurs de tous les horizons, mettre en avant l'entrepreneuriat sous toutes ses formes. Cette année, on passe à la vitesse supérieure. Depuis la semaine dernière, je publie un épisode chaque semaine, chaque lundi exactement. Pour vous faire découvrir une multitude d'entrepreneurs, de business, de parcours si uniques et différents. Pour ce 31e épisode, j'ai rencontré à distance Guillaume Houbèche, cofondateur et CEO de Lemlist. Créé en 2018, Lemlist est un outil de sales automation et de cold emailing. Lemlist, c'est plus de 5 millions d'euros de revenus annuels récurrents en 2 ans. C'est une boîte en hyper-croissance qui est rentable et qui n'a pas eu besoin de lever des fonds. Guillaume est un des entrepreneurs français les plus impressionnants du moment. Vous allez le découvrir ou le redécouvrir dans cet épisode. Avec Guillaume, on a échangé pendant un peu moins d'une heure sur de nombreux sujets, notamment quelles ont été les grandes étapes de Lemlist, comment passer de 0 à 5 millions d'euros d'ARR en 2 ans, comment a-t-il vécu l'ascension rapide de sa boîte, plus de 5000 abonnés en 5 mois sur YouTube, quelle est sa stratégie sur ce réseau. Avant de lancer l'épisode, n'hésitez pas à soutenir mon travail en faisant plusieurs choses. Laissez 5 étoiles sur Apple Podcast, ça booste le référencement du podcast. Vous abonnez via la plateforme audio de votre choix, Spotify, Deezer, Apple, Google. Quant à moi, je vous souhaite une très bonne écoute et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut Guillaume.
Salut François, très content d'être ici.
Pareillement. Moi, à chaque fois que je démarre un podcast, ma question, ça va être... Quel a été ton parcours avant d'entreprendre et qu'est-ce qui t'a motivé à entreprendre ?
C'est une bonne question. Donc moi, j'ai commencé par étudier les sciences. Donc j'ai fait de la chimie. Je suis allé bosser même en Écosse où je faisais de la recherche pour créer des médicaments. Et ensuite, du coup, j'ai voyagé pendant un an autour du monde en utilisant les réseaux sociaux pour loger gratuitement chez les gens. Et je t'avoue qu'en rentrant, j'avais envie un peu de créer ce même sentiment de liberté que j'avais pu avoir pendant un an. Et je me suis dit qu'il fallait que je lance un business. Donc après, je me suis dit, OK, je suis un ingénieur à la base, donc il faudrait peut-être que je devienne un petit peu bon en business. Donc je suis parti à HEC en école de commerce. Et mon premier business, du coup, c'était un business de t-shirt avec mon père, qui a été un énorme échec. On en parlera peut-être plus tard.
Carrément. C'est quoi ton background ? Tu viens de Paris même ? Tes parents faisaient quoi comme métier ? Tu vois, c'est toujours le genre de question qu'on peut se poser aussi autour d'un entrepreneur.
Ouais, alors je suis né à Paris, à la Gare du Nord, donc à la Riboisière. Donc j'ai grandi entre Barbès et Pigalle, donc Paris Nord. Et mes parents, en fait, eux, n'ont pas fait d'études et ont grandi un peu à la ferme avant de monter sur Paris. Mon père, lui, il est graphiste et ma mère, elle est fonctionnaire.
Ok.
Donc, pas de parents entrepreneurs ou, ou chefs d'entreprise.
comme beaucoup d'entrepreneurs, de toute façon, chaque parcours est unique. Donc, tu as créé Lemlist en 2018. Est-ce que tu peux nous expliquer, en tout cas expliquer aux gens qui ne connaîtraient pas encore Lemlist, ce que c'est ?
Ouais, Lemlist, c'est une plateforme en fait qui s'adresse aux équipes commerciales et qui leur permet d'automatiser leur prospection multi-channel. Donc en fait, ils peuvent envoyer des emails, envoyer des messages sur LinkedIn, se mettre des tâches pour appeler les gens afin de faire leur prospection et donc d'avoir plus de rendez-vous avec leurs futurs clients.
Ok. En un peu moins de 3 ans, il s'est passé énormément de choses. Est-ce que tu peux nous raconter les grandes étapes de Lemlist et tout ce qui s'est passé en fait sur ces différentes années ?
Ouais, alors première année, je dirais que c'était l'année où on a le plus galéré parce que comme on lançait un SaaS, donc une plateforme, un logiciel, au début, tu fais pas beaucoup d'argent et petit à petit, en fait, comme tu vends des abonnements, le cash que tu fais rentrer grossit de plus en plus. Donc, les grosses étapes de la première année, c'était lancement sur Product Hunt, donc qui est une plateforme qui te permet de voter pour les meilleurs produits. Donc, on était arrivé premier de la journée, ce qui nous avait apporté beaucoup de trafic des États-Unis. Ça nous a aussi conforté sur le fait qu'on voulait se lancer directement aux États-Unis et pas qu'en France, comme beaucoup de boîtes le font. Après, on a eu un gros partenariat avec une boîte aux US qui nous a rapporté des milliers de clients. Donc, fin d'année 2018, on avait déjà une bonne base d'utilisateurs et une communauté. Ensuite, du coup, deuxième année, on pouvait commencer à vraiment bien se payer et là, c'était cool. On a commencé à recruter un petit peu. À la fin de la deuxième année, on était 6 dans la boîte et on était à plus d'un million d'ARR. On a créé en parallèle aussi, parce qu'on adore faire des petits projets sur le côté, un projet qui s'appelait Lempod, qui permettait aux gens d'avoir plus de visibilité sur LinkedIn. Ce projet, en fait, en 12 mois, on l'a fait grossir de 0 à 600 000 dollars de revenus récurrents annuels et on l'a revendu à un groupe d'entrepreneurs en Australie. Et ensuite, pour être vraiment focus sur l'Aimlist, bah, du coup, on a décidé de commencer à recruter une équipe et maintenant, voilà, ça va faire 3 ans aujourd'hui et on est à plus de 5 millions d'ARR et 35 dans l'équipe. Donc, les choses vont assez vite.
Ouais, c'est top. Juste pour revenir à Lempod, à un moment donné, tu t'es fait ban de LinkedIn, non ?
Ouais, c'était exactement pour ça.
Qu'est-ce qui s'est passé en fait pour que tu fasses ban
En gros, pour ceux qui ne connaissent pas Lempod, nous, on l'a créé en fait avec pour objectif d'automatiser des tâches récurrentes qu'on faisait. C'est-à-dire que quand tu es dans une entreprise ou dans une startup, en l'occurrence, ou une petite boîte, quand tu vas poster sur LinkedIn, tu vas copier le lien de ton post, le mettre dans le Slack ou dans le Messenger de l'entreprise et tu vas dire à tes collègues, est-ce que vous pouvez aller cliquer pour liker, tu vois, pour donner un petit boost au départ. Et en fait, en voyant ça, on se dit, c'est con, ça pourrait s'automatiser. Donc, on avait créé une extension. Sauf qu'en fait, cette extension, très rapidement, c'est devenu la plus grosse marketplace au monde de pod. Donc, les gens, en fait, ils se mettaient entre eux, genre plein de CEO, plein de marketeurs, plein de sales. Et en fait, c'était devenu un peu la course effrénée au like. Et donc, nous, plus les gens étaient dans cette course, tu vois, étaient impliqués dans cette course, plus on avait de revenus. Et en fait, à un moment, LinkedIn nous a contactés. Sauf que quand ils nous ont contactés, en fait, on était déjà en train de vendre le projet. Donc, la vente s'est faite. Et là, LinkedIn, je leur ai dit, les gars, on a vendu le projet. Ils m'ont dit qu'ils ne me croyaient pas parce qu'il y avait encore des vidéos de moi dans le projet. En plus, on avait vendu le projet via un broker. Donc, c'est un intermédiaire qui t'aide à trouver les acheteurs. Et en fait, si tu veux, le mec, ils avaient tellement kiffé bosser avec nous et tout qu'ils avaient décidé d'écrire un article dans SaaS Magazine. Et donc, j'avais envoyé l'article à LinkedIn et LinkedIn m'a dit non, mais ça, c'est même pas une preuve. Si ça se trouve, vous êtes créé une société pour racheter et tout. J'étais là, oh là là, les mecs sont partis loin. Et ils m'ont dit, maintenant, vous avez une semaine pour arrêter le projet. Sauf que je leur ai dit, bah, nous, on n'a pas le lien, tu vois. Et donc, ils m'ont delete mon profil. Donc, c'était assez compliqué. Donc, j'avais plus de profil, sachant qu'il faut savoir qu'à l'époque, je faisais quand même plus d'un million de reach par mois. Donc, ouais, mes posts rapportaient quand même beaucoup de business directement à l'Aimlist. Et j'avoue, quand j'ai été banni, ça m'avait un petit peu saoulé, on va dire. Et je pensais que j'allais le récupérer rapidement. Mais en fait, LinkedIn, ils mettent trop de temps à répondre. C'est super long. Et en fait, surtout, ils sont vraiment de mauvaise foi, tu vois. Parce qu'en gros, ce qui se passe, c'est que dans le contrat, j'ai pas le droit de divulguer le nom du groupe d'entrepreneurs qui nous a rachetés. C'est assez classique dans les contrats de rachat. Tu vois, il y a des gens qui rachètent plein de boîtes et qui ont juste pas envie de savoir qu'ils rachètent parce qu'ils font ce qu'ils veulent avec leur argent, tu vois. Et le truc, c'est que pourtant, le broker qui est l'intermédiaire a fait une lettre pour constater que oui, le projet avait bien été vendu, que je n'étais plus honneur de ce projet. Mais LinkedIn ne veut rien entendre et continue de me dire que tant qu'ils n'ont pas le nom de la personne, ils peuvent rien faire, etc. Donc, en vrai, j'ai recréé un profil qui maintenant a plus de 10 000 personnes followers. Donc,
le
ça
G.
va. Ouais, c'est ça, le G. Le G point.
Et tu as eu une vague de soutien à ce moment-là. En plus, j'ai vu pas mal à cette époque de posts LinkedIn, justement, en mode...
Ah ouais, mais c'est encore pire. En fait, on avait fait... Ouais, Free Guillaume Moubèche. En fait, on avait fait une opération Free Guillaume Moubèche, donc qu'on avait un petit peu orchestré avec un autre profil que j'avais créé, du coup, qui n'est pas mon profil actuel, qui est un profil d'avant. Donc, je m'étais dit, OK, je me recrée un profil. Et là, les gens vont faire une opération Free Guillaume Moubèche. Et en fait, il y a des centaines et des centaines de personnes qui ont publié partout dans le monde. Et en fait, LinkedIn a bloqué le hashtag Free Guillaume Moubèche. Il a kill le reach de toutes les personnes qui avaient écrit pour Frigio Moubech. Et en fait, je me suis retrouvé à avoir un profil qui était bloqué par LinkedIn juste après, tu vois. Et donc, j'ai dû en recréer un. Et là, cette fois-ci, j'ai dit aux gens, genre, ne me taguez pas, ne mettez pas de Frigio Moubech parce que sinon, je vais encore me refaire bloquer. Et voilà.
Ah ouais, t'es super wanted en fait.
Ouais, c'est ça. En fait, il y a des gens même, hein, d'ailleurs, parce que la raison pour laquelle je m'appelle G maintenant sur LinkedIn, c'est parce qu'en fait, il y a des gens très haut placés chez LinkedIn qui m'ont dit le seul moyen pour toi de revenir, parce qu'ils me disent, bon, la politique est un peu conne, mais c'est genre de revenir sous un autre nom. Donc, j'ai pris ça. Vu comme ça, tout le monde m'appelle comme ça aux US, donc c'était plus simple.
Ok, ok. Pour revenir aux grandes étapes de l'Aimlist, moi, je voulais savoir comment tu les as vécues personnellement. Parce que justement l'accélération elle s'est faite assez vite, que ce soit aussi bien en termes de users mais aussi du coup financièrement, et je voulais voir comment tu l'avais ressenti toi personnellement en termes de je sais pas de confiance etc, enfin d'émotion
ouais. Tu vois, au début en fait, enfin de l'extérieur on a l'impression que ça fait vite et c'est vrai que tu vois moi les 3 ans sont passés ultra vite, mais au début ça va clairement pas assez vite, tu vois, parce que quand t'as pas d'argent et que à l'époque c'était mon ex du coup qui payait le loyer et j'avais tous mes potes soit qui avaient fait école d'ingé soit qui avaient fait HEC qui avaient un bon salaire et mes parents pareil tu vois qui stressaient parce que eux tu vois ils avaient la vision de faut trouver un travail et faut tu vois quelque chose de stable. Bah, en fait franchement, c'était dur, tu vois. Genre le début, moi, j'étais très, très seul. Et limite, en plus, quand je continuais à voir, tu vois, mes potes ou ma famille, c'était tout le temps la même question qui revenait, tu vois. Quand est-ce que tu penses te payer un salaire? Et en fait, il y a un moment où c'est juste chiant et tu te sens un peu seul parce que tu n'as pas envie de répondre tout le temps et de dire, ben voilà, j'ai pas d'argent, je suis au RSA, c'est relou. Enfin, j'aime pas me plaindre, tu vois. Donc, au début, c'était vraiment dur. Et puis après, en fait, quand tu vois que ça commence à prendre, en fait, tu as des petits moments qui sont des moments de boost dans le sens où tu vas avoir des clients qui vont te faire des messages de support ou des gens qui vont te dire bah, « Tiens, ça m'a super aidé ce que tu as fait. » Et en fait, ces petits trucs, moi, je m'y raccrochais comme une source, mais vraiment de motivation. Et petit à petit, en fait, dès qu'on a commencé à vraiment accélérer et là où ça se voyait vraiment dans le sens où on pouvait se prendre un salaire, puis augmenter ses salaires et ainsi de suite, ben là, tu vois, c'est vrai que c'est allé ultra vite et je t'avoue que j'ai l'impression d'être en sprint depuis 2 ans. et ça, c'est super excitant parce que, en fait, t'as de plus en plus de challenges. Il y avait des challenges quand ça allait très vite et que donc, du coup, on était là à devoir recruter des gens. Maintenant, il y a les challenges de les gens que j'ai recrutés. Je sais que c'est les bonnes personnes, mais je vais tout faire pour les aider à monter vachement en compétences. Il y a les challenges de scale. Donc, comment tu fais pour être sûr que tu développes suffisamment de features pour maintenir avec la croissance des utilisateurs et qu'en même temps, tu as un produit ultra stable. Donc, c'est vraiment un roller coaster, quoi. Donc, les montagnes russes pendant un peu plus de 2 ans. Mais sinon, enfin, c'est la meilleure aventure. Après, personnellement, moi, je me suis rendu compte que mes goûts n'avaient pas trop changé. Bon, si j'ai pris un appart dans un endroit cool et je suis content et voilà. Mais après, sinon, j'aime toujours les mêmes choses assez simples, quoi, hein, tu vois. T-shirt Uniqlo, yes. Et kebab quand je peux faire avec des potes.
Ok. Ouais, donc première année compliquée et puis après, bam, le sprint.
Ouais, c'est ça.
Le sprint qu'on connaît, quoi. On a clairement, du coup, ces dernières semaines, l'Aimlist a buzzé hein, avec ta vidéo I said no to 30 millions dollars. Pour bien que les gens comprennent l'impact que peut avoir une levée de fonds sur une boîte, est-ce que tu pourrais justement m'expliquer pourquoi tu as refusé et puis juste après, comme tout sujet lié à l'argent en France, on va dire, est tabou et problématique, il y a eu pas mal de haters forcément. Et comment as-tu encaissé toutes ces critiques justement liées à ça?
Ouais, alors en gros, déjà de base, on n'est pas contre la levée de fonds. Nous, ce qu'on a fait, en fait, c'est pour remettre un peu de contexte, peut-être pour ceux qui n'en ont pas entendu parler, c'est juste que, comme on voyait que dans les médias, on parle tout le temps des mêmes boîtes qui lèvent et on associe la taille de la levée, en gros, au succès d'une boîte. On trouvait ça dommage qu'il n'y ait pas de boîte bootstrap, donc de boîtes qui n'ont pas levé et qui n'ont pas commencé avec des millions d'euros de la part des fondateurs, puisque au sein de notre capital, il y avait 1 000 euros, c'est tout l'argent qu'on a mis dedans, donc 300 euros chacun, et montrer qu'en fait, on pouvait réussir. Et qu'on pouvait faire être une boîte aussi en hyper croissance sans avoir besoin de lever des fonds. Ça, c'était important pour nous. Donc, pour faire ça, en fait, on a décidé d'organiser publiquement une levée pour qu'au final, dès qu'on ait une offre, on puisse dire non et le dire publiquement pour montrer, en fait, tu vois, et réussir à avoir beaucoup de presse, beaucoup de médias et lancer un débat sur tout ça. Et pour répondre à ta question, il y a des business models qui nécessitent forcément des levées de fonds, mais il y en a plein, en fait, qui n'en nécessitent pas et qui décident de lever. Et en fait, il faut bien comprendre que lorsque tu lèves, ça implique qu'il y a une nouvelle personne qui a pris des parts dans ta boîte. Et le fait que cette personne prenne des parts dans ta boîte, ça implique que forcément, ils vont avoir un impact sur tes décisions. Tu vas plus pouvoir te payer comme tu veux, tu vas devoir à chaque fois que tu veux augmenter un salaire, ben, il va falloir que tout le monde approuve au board. Ça, c'est un premier truc, donc tu as beaucoup moins de liberté. Il va aussi falloir que potentiellement, ben, tu dépenses l'argent des investisseurs. Ce qui veut dire que à la fin de l'année, techniquement, comme tu as levé beaucoup d'argent, tu es censé dépenser plus que donc dépenser plus d'argent que ce que tu gagnes, parce que ton objectif, c'est de financer ta croissance. Et par conséquent, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les boîtes ne sont pas rentables. Donc, si les boîtes ne sont pas rentables, bah, techniquement, le but, comme tu... En fait, toi, ton objectif pour un investisseur, c'est de faire x10 ou x plus 20, 30 sur ses investissements. Il veut que tu finances avec l'argent ta croissance jusqu'à potentiellement l'entrée en bourse. Mais ça a plein de dérives. Parce que tu vois, typiquement, à la fin de l'année, tu ne vas pas pouvoir mettre autant de primes que tu voudrais à tes employés. Nous, tu vois, on partage les revenus à la fin de l'année, on donne un gros pourcentage à nos employés pour que chacun puisse avoir une prime entre 15 et 25K, tu vois. Donc, ce qui est un montant qui est quand même life-changing, tu vois, pour n'importe qui. Et donc, petit à petit, tu vois, ben, en fait, tu te rends compte que tu as beaucoup moins de liberté. Et il y a des trucs qui m'ont clairement choqué, tu vois. Je vais te donner deux exemples. L'année dernière, je me suis retrouvé au moment du Covid avec énormément de personnes de scale-up française qui venait postuler chez nous et avec qui j'étais en entretien, parce qu'en fait, ce qui s'était passé, c'est que toutes ces scale-up qui avaient levé énormément d'argent, ben en fait, au moment du Covid, tu as les investisseurs qui ont fait un board meeting et qui leur ont dit « Toutes vos périodes d'essai, vous les terminez maintenant. » Parce qu'on ne sait pas ce que ça va être le Covid, donc il faut couper les coûts, il faut faire attention, il faut être comme ça et tout ça. Donc, c'est des gens qui potentiellement avaient quitté un CDI qui s'était dit, bah, ok, trop cool, je sais que je vais performer, donc ma période d'essai, ça va être facile, machin. J'ai passé, tu vois, les 8 entretiens, ça va bien se passer. Leur manager leur avait dit, bah oui, c'est sûr que ça ira bien, tout ça. Et en fait, tu te retrouves à avoir mis des gens à la porte alors que les gens ont fait des sacrifices de ouf. Et je me suis retrouvé avec des situations comme ça où des gens, enfin, en face de moi. Et franchement, je me sentais super mal, tu vois. Je me suis dit, putain, mais c'est ça, en fait, tu vois. C'est quand t'as pas ta boîte et quand c'est pas toi qui manage tout ça. Bah, typiquement, tu vas te dire, bah, ok, je vire les gens et je les laisse partir juste parce que, en fait, il faut que je fasse attention au capital parce que je ne sais pas encore ce qui va se passer, etc. Tu vois. Et ça, pareil, tu vois, Bird aux États-Unis, les trottinettes électriques, le CEO, il a fait un meeting avec 400 personnes et en 3 minutes, il les a tous virés sur Zoom, quoi, tu vois, en visioconférence. Enfin, il y a quand même des grosses dérives parfois qui peuvent arriver avec la levée de fonds, avec la pression des investisseurs. Et ça, on n'en parle pas assez parce que, en soi, je pense pas que les entrepreneurs soient des mauvaises personnes, mais c'est juste que tu vois, c'est les conditions qui font que petit à petit, il y a de la pression qui monte et les mecs arrivent, tu vois, à faire des choses qui n'ont aucun sens. Et moi, tu vois, je voulais remettre au centre du débat, un, la rentabilité, deux, le bien-être de ses collaborateurs, et trois, tu vois, la croissance aussi organique, saine, où tu es encore plus proche de tes utilisateurs et tu n'es pas là à forcément vouloir cramer des thunes dans tous les sens, tu vois.
C'est clair. Et c'est pour ça que je pense que les haters qu'il y avait autour de tout ça n'ont vraiment pas compris, dans le sens où c'était pas en mode les deux entrepreneurs lillois ont refusé 30 millions d'euros. C'est pas ça, en fait. C'est pas quelqu'un qui est venu avec un chèque, tiens, 30 millions, tu vois rien, c'est bon, tu vois. Enfin, ça, c'est pas comme ça, en fait. Une levée de fonds, ça implique beaucoup de choses. C'est pour ça que la métaphore du piece of the gâteau sur votre vidéo était super drôle et super, super pertinente, parce que ça expliquait en fait ça, quoi. C'est quand tu fais une levée de fonds, bah, tu files du capital à des investisseurs, tu leur dois des comptes, tu dois faire tant, etc. C'est clair que ça ajoute beaucoup de contraintes, quoi. C'est pas juste 30 millions et puis ciao, bonsoir, quoi.
Ouais, c'est clair. On a toujours, en fait, pour la plupart des personnes à l'extérieur qui ne sont pas dans l'écosystème startup, quand ils voient une levée de fonds, ils pensent que ça va directement dans la poche dans la poche des associés, mais c'est pas ça, quoi.
Ouais, c'est clair. Je pense que c'est très mal compris, en fait, et c'est pour ça qu'il y a des gens qui ne comprennent pas et qui, du coup, réagissent directement à chaud en mode « mais pourquoi ils ont fait ça, quoi ?» Alors ouais, que, voilà, et... machin, le salaire moyen, c'est tant, etc. Et en fait, ils comprennent pas du tout le truc.
Ouais, ça, il y a clairement des incompréhensions. Et en plus, à côté de ça, il y avait aussi le côté où il y a beaucoup d'entrepreneurs qui avaient levé des fonds, qui l'ont pris personnellement, en fait. Qu'ils l'ont pris comme une attaque et qu'ils l'ont pris alors que pas du tout. Et tu vois, en fait, ces personnes-là, en général, qui ont eu des réactions, tu vois, qui étaient très personnelles, c'était plus des problèmes d'ego, tu vois, que des problèmes de fond. Et ça, je trouvais ça dommage. Mais après, voilà, ça fait partie du débat et faut accepter ce genre de choses, tu vois.
OK. Et du coup, aujourd'hui, l'Aimlist, en quelques chiffres, que ce soit en termes de chiffre d'affaires, en termes de nombre de salariés, est-ce que tu pourrais nous donner tous ces chiffres?
Ouais, alors nous, on a dépassé les 5 millions d'ARR, donc de revenus récurrents annuels. On est 35 dans la boîte aujourd'hui, un peu moins de 35. On grossit à deux chiffres tous les mois, donc ça va très vite. Et on a des clients dans plus de 85 pays, donc très international.
Concernant les salariés, une des problématiques d'un entrepreneur, c'est de passer d'entrepreneur à manager. Comment tu le vis, toi, le fait justement de devenir manager?
Alors, pour moi, c'est difficile parce que je suis quelqu'un qui est vachement dans l'exécution. C'est-à-dire que pendant un an et demi, en fait, nous, on a toujours gardé une équipe très petite. Donc, pendant un an et demi, j'étais le seul à faire le support, tu vois. Je faisais le support, le marketing, les sales, le growth, et Vianney et François, ils s'occupaient du produit. Mais en fait, ce qui est très cool, c'est que je sais ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Et relativement sur la partie business, je suis pas trop, trop mauvais. Donc, ça va, tu vois, j'arrive à… En fait, ça me fait… Moi, ce que j'adore et ce que j'ai toujours adoré, c'est enseigner, en fait. Donc, enseigner ce que j'ai appris. On dit, tu vois, si tu veux maîtriser un sujet, enseigne-le. Et c'est vrai, tu vois. Plus tu passes du temps à écrire des articles, plus tu passes du temps à montrer aux gens comment faire les choses, et meilleur tu deviens dans un certain domaine. Et en fait, c'est un peu le rôle du manager aussi. Et là, j'avoue que c'est un vrai plaisir de voir des gens que j'ai recrutés il y a 6 mois qui deviennent genre 10 fois plus chauds que moi dans un domaine, tu vois. Et ça, je le vis ultra bien. Au début, c'était pas facile. Je pense que j'ai fait l'erreur de, comme beaucoup, je dirais, mais bon, peut-être pas en vrai. J'étais très en mode micromanagement, mais avec tout le monde. Du coup, mes associés, ils ont pété un câble un moment et je les comprends parce que, tu vois, je voulais vraiment être au courant de tout et parce que, tu vois, moi, je vis, je respire à l'Aimlist, tu vois, c'est mon bébé. Mais en fait, l'avantage après, je pense que ça doit être une de mes qualités, c'est que j'ai pas du tout, je mets pas du tout l'ego dans tout ce que je fais. C'est-à-dire que, tu vois, je vais faire un article, si tu me dis que c'est de la merde et que tu m'expliques les raisons, je serais super content, tu vois, parce que je vais me dire, bah, trop cool, tu vois, c'est du feedback constructif et tout. Et ça, c'est un truc que j'ai réussi à mettre en place rapidement avec les équipes, dans le sens où, tu vois, ça m'est arrivé parfois avec, bah, là, tu vois, dans les nouvelles personnes que j'ai recrutées. Moi, j'ai grandi, en fait, dans un milieu qui était assez… Enfin, j'ai fait beaucoup de sport en compétition. J'ai fait du sport à la Goutte d'Or. Donc, pour ceux qui ne savent pas, c'est genre vraiment dans un quartier à Paris qui est… assez dynamique, on va dire. Et donc, du coup, tu vois, typiquement, comme c'était des milieux très compétitifs, moi, j'ai grandi avec des coachs qui m'insultaient, qui me disaient que j'étais qu'une grosse merde. Enfin, tu vois, c'était très dur. Et en fait, dans ma façon de manager, j'ai toujours été, tu vois, très cash, quoi. C'est-à-dire que, tu vois, il y a un moment où il faut mettre notre ego de côté. Si ça va pas, on le dit et on avance, tu vois. Et moi, j'ai aucune rancune ou rancœur, tu vois. Enfin, c'est pas grave, tu vois. S'il y a une merde, moi, j'ai fait plein de conneries. Je le dis, je l'accepte. Une fois que je l'ai assimilé, on passe à autre chose et let's go, tu vois. Et en fait, je me suis rendu compte que, en fonction de certaines personnes, en fait, c'était pas forcément le bon type de management. Donc, en gros, ce que j'ai fait, et ça, c'est cool, tu vois, d'avoir des canaux de communication ouverts avec les gens de ton équipe, c'est parce qu'en fait, tu peux te rendre compte de quelle est la bonne manière de manager chaque personne. Donc, il y en a avec qui où je me suis rendu compte que, tu vois, ce côté un petit peu…
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more.
That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Être un peu trop abrupte, bah en fait, ça fonctionnait pas du tout. Et ce qu'il fallait, c'était plutôt mettre en place, par exemple, la communication non violente. Donc, parler un petit peu de toi, comment tu te ressens quand certaines personnes font une action qui a un impact négatif sur la boîte, tu vois. Et ainsi de suite, pour bien faire comprendre aux gens les enjeux, tout ça. Et en fait, voilà, il faut s'adapter. Et je pense qu'une fois que tu arrives à t'adapter et que tu connais bien les personnes, bah, ça roule tout seul.
Ouais, de toute façon, c'est des choses qui viennent aussi avec le temps, quoi. Enfin, t'es forcément pas expert en management quand tu crées ta boîte, quoi.
Ouais, donc, c'est clair.
C'est sûr.
Mais il faut le savoir, puis, c'est important de le savoir. Je pense que c'est bien de se remettre en question et tu vois, de pouvoir
exactement.
Se dire. Ouais.
Et puis de toute façon, c'est quelque chose voilà, qui s'apprend. Et puis en même temps, être cash aussi, c'est aussi être transparent. Donc c'est bien aussi d'avoir une certaine transparence justement entre les gens qui font ta boîte. Quoi.
C'est clair.
Et du coup, pour l'Aimlist, c'est quoi les objectifs futurs?
Alors,
à part générer un maximum d'argent.
Bah, en gros, là, tu vois, nous, on a les gros objectifs. C'est déjà, enfin, il y a plusieurs choses. Objectif un peu long, genre à 4 ans, c'est de devenir la première licorne bootstrap française. Ça me tient à cœur. Ensuite, il y a l'aspect d'aider plus d'un million d'entrepreneurs et entrepreneurs, eux, à lancer des business rentables. Donc, en fait, on va mettre en place plein de contenus ultra actionnables, des cours, etc. pour que les gens puissent se lancer. Parce qu'aujourd'hui, en fait, sur toute la partie comment est-ce qu'on fait pour trouver des clients, bah ça, c'est un truc qu'on a vraiment, enfin, qu'on connaît très, très bien, quoi. On l'a fait pour l'Aimlist, on l'a fait pour l'Aimpod qu'on a revendu. J'ai aidé pas mal de boîtes à grossir avant avec mon agence. Donc, ça, c'est un truc que je connais et je vois tellement de boîtes, en fait, qui n'arrivent pas à mettre en place parce que juste, ils n'ont pas les bons process, pas les bonnes méthodes. Et qui le font juste pas bien, que je me dis, OK, nous, on est bon dans la création de contenu, on arrive bien à faire en sorte de rendre des choses qui sont complexes simples, tu vois, en cassant un peu l'information, en démystifiant beaucoup de choses. Et donc, je me dis, ça, c'est un truc que j'ai vraiment envie de faire parce que, au final, aujourd'hui, tu vois, l'argent, c'est plus du tout un problème. Et donc, moi, le seul truc que j'ai envie de faire, c'est des choses qui me font kiffer. Et ce qui me fait kiffer, en fait, c'est de me dire, bah ouais, OK, cette personne, tu vois, genre, il y a pas longtemps, elle lançait son business, elle avait pas de clients, elle a écouté tous les conseils qu'on lui a donnés, et maintenant, le truc marche, et ils ont recruté des gens, et ça fonctionne. Et ça, tu vois, c'est limite comme si, tu sais, t'as plein d'enfants, et tu les vois marcher, grandir, et se lancer, tu vois.
OK. Bah maintenant, on va parler du YouTube Game. En novembre dernier, tu as créé ta chaîne YouTube, tu as sorti plus d'une quarantaine de vidéos. J'ai pas tout saigné, mais pas loin.
Pas mal. Tu as été courageux.
ça va de mes 3 plus grands fails en tant qu'entrepreneur à 6 conseils pour optimiser son profil LinkedIn. Et du coup, forcément, une de tes dernières vidéos qui a quand même pas mal cartonné, c'est I said no to 30 million dollars. Et du coup, moi, mes questions, ma première question, c'est d'où t'es venue cette idée de créer cette chaîne?
Alors, en fait, tu vois, c'est marrant parce que c'est lié justement avec ce que tu disais, le management, tout ça. En gros, en septembre, on a recruté pas mal de personnes. C'est-à-dire, je crois qu'on est passé genre de 9 ou 10 dans la boîte à peut-être 17, 18, 19 même, qu'on a quasiment doublé. Et du coup, je me suis retrouvé à manager plein de personnes et en fait, on avait recruté des gens qui venaient pas du tout du monde des startups et qui avaient pas encore ce côté où, tu vois, ce mindset où tu vas te dire, bah, OK, je peux me lancer, je peux échouer, c'est pas grave, tu vois, il va rien se passer. Enfin, tu vas pas mourir, la boîte va pas, oui, OK, ça te fera peut-être un peu mal à ton ego au départ, mais t'inquiète pas, tu vas te relever. C'est comme quand t'apprenais à marcher, tu tombes, bah, en fait, tu te relèves et petit à petit, ça va, tu vois. Et en gros, en novembre, comme je voyais tout ça et que je voyais que les gens, ça allait stresser, je me suis dit, OK, tu sais quoi? Moi, j'ai jamais fait de YouTube. Là, je vais me lancer un défi. 30 vidéos en 30 jours. Ça va être super intense. Il y a des vidéos qui seront nulles. Il y aura des fails. Mais c'est pas grave, tu vois, je vais le faire. Et je vais montrer à l'équipe qu'en fait, on peut le faire, tu vois. Et que j'en sortirai, tu vois, avec sûrement plein d'apprentissages et que le truc sera cool. et que ça serait un bon challenge, tu vois. Donc, je me suis un peu lancé ce défi devant toute l'équipe. Je t'avoue qu'il y a des moments où c'était dur parce que, genre, poster, tu vois, la première vidéo que tu postes le dimanche et le samedi, bah, tu te dis, putain, déjà, j'ai posté une vidéo un samedi, un dimanche. Mais quand tu arrives le deuxième week-end, là, tu te dis, oh putain, je veux encore avoir toi un week-end comme ça, ça me saoule. Et là, ça devient vraiment dur. Et donc, mais bon, dans tous les cas, c'était gros challenge et je trouvais ça très cool aussi de pouvoir montrer ça à toute l'équipe pour inspirer. Et puis en fait, petit à petit, je me suis rendu compte que les gens, ils étaient au taquet, qui posaient plein de questions, qui me donnaient plein d'idées, qu'ils avaient plein de choses sur lesquelles, tu vois, ils n'avaient pas la réponse, quoi. Et donc, je me suis dit, bah, c'est cool, on va pouvoir commencer et lancer tout ça. Et puis, let's go. Après, tu vois, on s'est dit, bah, c'est parti, quoi. On va lancer la chaîne YouTube. Et en fait, comme nous, on a une grosse majorité de nos clients, je pense que ça doit être 90% basé à l'international, je me suis dit, j'étais con de le faire en français. Je l'avais fait en français parce que, tu vois, on avait les bureaux en France et que je me suis dit, bah, c'est cool, ça fait un truc. Mais en fait, c'était pas logique parce que tout mon contenu a toujours été en anglais. Bon, bref, il y a des fois, je fais des trucs de con, hein, ça arrive. Et en gros, je me suis dit, bah, vas-y, on switch la channel en anglais. Et là, à partir de maintenant, on va lancer pas mal de trucs en anglais là, dans les prochaines semaines / mois pour donner un petit peu un côté plus international à tout ça.
Carrément. Et comment se passe ton processus créatif sur YouTube ? Est-ce que tu t'occupes de tout, de A à Z, de l'écriture à la publication ? Ou est-ce que je sais que apparemment t'as un pôle vidéo chez Lemlist ? Est-ce que justement t'es aidé sur la partie montage ?
Ouais, clairement.
Tout ça.
Clairement, la partie captation, donc recorder la vidéo et le montage, c'est pas du tout moi qui m'en occupe. J'ai une équipe pour ça. Après, en fait, notre pôle vidéo, il est occupé sur un autre projet qui n'est pas du tout sorti. Ça fait un an qu'il bosse dessus, donc okay. Peut-être qu'un jour, ça va arriver. Je vous en dirai plus dans les semaines qui arrivent. Non, en gros, on est en train de lancer une série sur qui s'appellera Lem Show, qui est sur les débuts de Lemlist. En fait, on va faire une web série qui sera en fait sur, tu vois, les relations entre les associés. Quand on n'était pas du tout quand on était en désaccord, les moments les plus down, les recrutements, les embrouilles, enfin tout ça, tu vois. Vraiment les dessous de la scène de Lemlist et comment on a fait pour passer de 0 à 1 million. Et donc ça, ils bossent énormément dessus parce qu'il y a beaucoup de motion design, etc. Et après, sur le pôle vidéo pour le processus créatif, les sujets en général, c'est plutôt moi qui les choisis en fonction soit des questions qu'on a eues, soit des idées que j'ai. Après, il y a Roxana aussi de mon équipe qui bosse un peu dessus de temps en temps. En général, elle me fait une proposition d'un premier plan de vidéo. Et là, je vais un peu la challenger. Je vais lui dire, bah non, il manque ci, ça, faudrait rajouter ta, ta, ta. Et on brainstorm un peu à deux comme ça. Et après, en général, elle met des bullet points une fois qu'on a directement le plan. Et là, j'y vais parfois en freestyle aussi. Genre, j'ai juste les grandes et j'y vais, je parle devant la caméra. Voilà, c'est un petit peu comme ça que ça fonctionne. Et Erwan, ouais, fait le montage.
Ok. Le fait que tu sois super à l'aise en vidéo, c'est venu naturellement ou t'as pris des cours de théâtre un jour?
Non, franchement, pas du tout. Au début, c'était horrible. C'était moi et je me filmais avec un téléphone et un trépied quand j'étais tout seul.
Donc, t'as fait combien de prises pour tes vidéos?
Ben, là, les nouvelles, maintenant, ça va, tu vois. C'est ouais. Maintenant, en plus, comme quand c'est des sujets que tu maîtrises, tu vois, c'est beaucoup c'est plus sûr. Facile et c'est cool, tu vois, et ça fonctionne bien. Mais après, c'est vrai que au tout début, bah, tu vois, genre, je me filmais, par exemple, au début, je faisais des vidéos, c'était moi, mon iPhone, j'allais parler pendant genre 15 minutes et après, j'allais tout cutter et j'allais faire un truc qui, au final, dure peut-être 3 minutes, tu vois. Et voilà quoi, c'était terminé et fini.
Ok. Et du coup, c'est quoi ton objectif avec cette chaîne ?
Bah, tu vois, pour cette chaîne, je t'avoue que l'objectif, c'est vraiment de me faire kiffer et d'apporter un maximum de valeur. Il n'y a pas forcément un énorme intérêt business. Bon, si, tu vois, parce qu'il y a des trucs qui rapportent un peu de awareness, en brand, tout ça. Mais honnêtement, moi, c'est des trucs que j'aime bien, tu vois, parce que ça m'aide. En fait, dès que j'ai un nouveau sujet que je veux traiter, ça me force à devenir expert dessus. Et c'est cool parce que du coup, je monte tout le temps en compétences, en fait. Et moi, ce que j'adore dans la vie, c'est apprendre des nouvelles choses, tu vois. Donc, honnêtement, c'est cool. Et puis après, tu as le côté aussi, évidemment, où quand les gens viennent te voir et je reçois peut-être, je sais pas, 10 messages par semaine avec les vidéos YouTube, tu vois, de gens qui me disent « J'ai vu ta channel, c'est vraiment cool. J'ai commencé par une vidéo, j'en ai regardé 15, tu vois. » Genre, et tu te dis « Ouais, c'est cool, tu vois. » C'est cool.
Ouais, puis il y a un vrai aspect vulgarisation aussi. J'ai bien aimé ta vidéo vulgarisation des mots tech.
Ah, cool.
Parce que justement, des gens qui ne sont pas du tout dans ce secteur, c'est toujours hyper intéressant, quoi. Et je n'ai pas connaissance d'entrepreneurs justement français dans ton secteur qui ont lancé leur chaîne YouTube. J'ai pas d'exemple.
Non, moi non plus.
Donc ouais, c'est carrément cool. On va passer à l'autre partie du podcast sur les rencontres et l'entrepreneuriat. Quelles sont les rencontres qui t'ont le plus marqué dans ta vie ?
Il y a plusieurs rencontres. Je pense que la rencontre avec Nathan Latka, qui est hôte du podcast The Top Entrepreneur, ça m'avait pas mal marqué parce qu'en fait, c'était un mec que je voyais depuis longtemps. Et en fait, le gars m'avait contacté pour m'interviewer alors qu'on était vraiment tout petits. Enfin, vraiment, l'amnistie, c'était rien du tout, quoi, tu vois. Et puis, en fait, il était super sympa. On avait super bien accroché. Et après, tu vois, on est resté assez proches et on échange de temps en temps, enfin, régulièrement. Et c'est un mec très cool. Et franchement, ce côté de... le gars, tu vois, il avait déjà une énorme audience, il était connu aux US et tout, et genre me dire, voilà, j'aime bien ce que tu fais, je trouve que c'est dynamique, c'est différent, et j'ai envie de te donner ta chance, viens dans le podcast. Ça m'a clairement marqué. Après, il y avait aussi une rencontre que j'avais bien aimée, c'était avec Rand Fishkin, qui était le fondateur et CEO de Moz. Lui, c'était cool, en off, on avait pas mal parlé, notamment sur la levée de fonds, sur les risques. Lui, il m'a raconté sa descente aux enfers avec... C'est 7 ans où il a été, sur 7 ans chez Moz, pendant 4 ou 5 ans, il a été obligé de bosser. Et c'était les VC, entre guillemets, qui l'avaient bloqué parce que il aurait pu revendre sa boîte. Ils ont dit non. Et puis ensuite, il y a un concurrent, 1 an et demi plus tard, qui est arrivé et qui leur a volé, genre, toute leur part de marché. Donc les mecs, le MRR qui diminue, qui chute, des problèmes de produits. Lui qui est obligé de continuer à taffer parce que, justement, en gros, il a quelqu'un dans sa famille qui a un cancer et tu sais, aux États-Unis, c'est galère avec les assurances et tout. Donc, il faut payer des montants qui sont un peu astronomiques. Et en fait, il m'a expliqué plein de choses et comment lui s'était retrouvé coincé. Donc, c'était vraiment une rencontre assez inspirante. Et après, il y a toujours plein d'entrepreneurs, tu vois, en France avec qui j'aime bien échanger. Et c'est de façon générale, j'essaye de faire, je sais pas moi, 5-6 calls de networking par mois, tu vois. Donc avec des gens que je connais pas ou des trucs comme ça, donc c'est toujours très cool.
Carrément. Est-ce que tu peux me citer une ou deux personnes qui t'inspirent aujourd'hui, pas que dans l'entrepreneuriat, mais ça peut être un artiste ou autre?
Ouais, alors ce que j'aime bien, on va pas prendre des entrepreneurs comme ça, ça sera un peu différent. J'aime bien PNL dans ce qu'ils font. C'est-à-dire ils sont arrivés en fait dans un marché qui était le marché du rap, donc l'industrie de la musique, le truc un peu quadrillé par des labels et quadrillé par, surtout dans le rap, beaucoup de featuring, tu vois. Et les mecs sont arrivés et ont dit non, nous on va tout faire tout seul, c'est nous contre tout le monde, zéro featuring, des disques de platine. Les mecs arrivent avec une créativité en marketing juste totalement de l'espace, tu vois. Et ça, pour moi, c'était ultra, ultra impressionnant. Et après, je vais prendre une autre personne qui m'inspire aussi beaucoup parce que du coup, j'ai fait beaucoup de basket et que c'était un mec que j'avais rencontré aussi quand il était venu à Paris parce qu'on avait notre équipe était sponsor par Nike. Donc, c'était LeBron James qui est aujourd'hui meilleur joueur au monde, tu vois. Et il m'inspire beaucoup, pas qu'en tant qu'athlète, parce que même s'il a une mentalité de l'espace et que sa détermination montre aussi que on peut arriver à faire des choses de fou quand on y met l'envie. C'est aussi ce côté où plus qu'un athlète, le mec montre que c'est un vrai businessman et en même temps qu'à côté de ça, donc tu vois, il investit son argent de façon très très smart, il est dans tous les bons coups, donc il est très bon de ce côté ou en tout cas très bien entouré pour faire ses investissements. Et à côté de ça, il y a ce côté aussi give back qui pour moi est très important. Et le mec, tu vois, il a ultra bien réussi, mais à côté de ça, son argent, il va s'en servir pour créer une nouvelle école, offrir, tu vois, à des dizaines de milliers d'étudiants leurs diplômes, tu vois, donc payer pour leur scolarité, tout ça. Et ça, je trouve ça cool et je pense que c'est important qu'il y ait des modèles comme ça qui montrent qu'en fait, rendre à la communauté, rendre, tu vois, aux gens, c'est quand toi, tu as eu la chance, parce que s'il y a toujours une part de chance dans le succès, quand tu as eu la chance de recevoir beaucoup, c'est important de redonner aussi, tu vois. Et on l'oublie trop souvent.
Ouais, c'est clair. C'est super important. Et est-ce que tu aurais des conseils à donner à des personnes qui hésiteraient à se lancer justement dans l'entrepreneuriat?
Ben en fait, ouais, les conseils que je pourrais te donner, c'est déjà de ne pas hésiter, tu vois. Faut pas avoir peur en fait de ce syndrome de l'imposteur. On a tous eu ça. Mon premier post LinkedIn, quand je l'ai fait, j'ai pleuré, quoi. J'avais un like, c'était ma mère. et voilà, tu vois. Aujourd'hui, j'ai des posts qui font peut-être des millions de vues. Mais en fait, il faut jamais oublier qu'on commence tous quelque part, tu vois. Et que si ça fonctionne pas, ben en fait, quand tu lances un projet et que ça fonctionne pas, ne t'inquiète pas, personne l'aura vu, tu vois. Donc, t'es même pas obligé d'en parler à tes potes si t'as trop peur, mais lance-toi, en fait. Fais quelque chose. Et petit à petit, tu vas voir que tu vas devenir de moins en moins mauvais au départ, et après tu vas devenir bon, et après tu deviendras très bon. Et donc en fait, faut pas avoir peur, et faut surtout pas en fait se dire que les mecs qui ont réussi et les entrepreneurs qui arrivent à faire des boîtes à millions sont nés avec des skills qui étaient déjà là, qui leur permettaient de tout faire, tu vois. Parce que moi, je peux te le dire aujourd'hui, bah tu vois, l'Aimlist en 3 ans, on arrive à plus de 5 millions d'ARR, on est une boîte ultra rentable en hyper croissance, enfin on a les métriques qui doivent être très très bien placé dans les startups qui grossissent le plus vite au monde. Et pourtant j'étais nul au début, quoi. Genre, je vais pas te... voilà, tu vois, genre j'ai eu des grosses hontes, j'ai eu des posts qui étaient vraiment nuls, j'ai fait des vidéos qui étaient super nulles, j'ai fait des interviews où je disais n'importe quoi, et voilà, tu vois. Et c'est pas grave, en fait, c'est pas grave, tu vas t'améliorer et ça va aller, et lance-toi, parce que la liberté que t'as quand t'es entrepreneur, c'est juste magique. Et moi, je l'avais aussi quand j'étais au RSA et que je lançais mon projet et qu'on ne gagnait pas d'argent, tu vois. C'est juste un sentiment qui est génial.
Non, mais c'est clair. Et puis de toute façon, si à un moment donné, tu veux progresser dans quelque chose, tu es obligé de faire, en fait. Si tu fais rien, forcément, tu ne pourras pas progresser. Donc, faut faire, faut se lancer et puis tester des choses. Et puis si ça ne marche pas, faut retenter. Et puis voilà, quoi.
Exactement.
J'ai une autre question aussi. Est-ce que tu peux nous raconter ton plus gros échec?
Ouais, alors mon plus gros échec, bon, il y en a eu pas mal, mais je pense que le plus gros échec que j'ai eu, parce que ça a quand même un lien assez émotif, tu vois, c'est j'ai lancé ma première boîte avec mon père. Donc mes parents, en fait, ils ont sacrifié quand même beaucoup, tu vois. Mon père, il a dû bosser 2 jobs pour qu'on puisse, avec mon frère, potentiellement faire les études qu'on voulait. Bon, après, moi, j'ai eu une bourse, donc bon, ça m'aidait un petit peu. Mais globalement, tu vois, on avait décidé de lancer cette entreprise de t-shirts ensemble. Et je t'avoue que ça a été un gros fail. Et que sachant que moi, j'étais censé m'occuper de la partie business, bah en fait, pendant notre relation avec mon père, quand ça marchait pas, je lui ai reproché beaucoup de mes défauts, tu vois, et beaucoup de mes échecs. Donc, le fait que je me lance pas justement assez, je sois pas assez... avenant, que je sois pas, que j'ai peur de contacter les gens pour demander, par exemple, peur de contacter des influenceurs pour essayer de faire des choses, peur d'investir un petit peu d'argent, peur de me lancer, peur de faire tout ça. En fait, ça a fait que le projet a jamais décollé, et que dès que j'ai eu une opportunité de lancer une agence avec un autre mec qui pouvait m'apprendre plein de choses, j'ai sauté dessus, tu vois. Et j'ai pas du tout été résident sur ce projet. J'ai laissé tomber mon père alors que, tu vois, il s'était investi dedans vu que c'est lui qui faisait les t-shirts. Et en fait, tu vois, ça a été un énorme échec. Et je t'avoue qu'après, pendant plusieurs mois avec mon père, on se parlait plus, j'allais plus du tout rendre visite à mes parents, et ça c'était vraiment dur, parce que tu vois, c'est la personne que t'admires, quoi, tu vois, c'est ton père, et en fait je me sentais juste mal de l'avoir laissé tomber, et à chaque fois que je le voyais, tu vois, ça me rappelait un petit peu ça. Donc ça a mis du temps avant qu'on retrouve une relation un petit peu normale, et puis voilà. Mais bon, ouais, c'était un gros échec. Donc, idem, tu vois, je pense que c'est important de parler de ses sentiments à sa famille aussi, tu vois, de pas avoir peur. Et ça, c'est un truc que j'ai pas fait. Donc, c'était un gros échec, et je m'en suis voulu pendant longtemps. Tu vois, j'ai mis du temps avant de grandir et de l'accepter, ouais, et de pouvoir en parler.
Ouais, et puis déjà, c'est déjà super compliqué, je pense, de lancer un projet avec quelqu'un de sa famille, ouais, potentiellement. Alors, en plus, son père, c'est sûr que c'est hyper, hyper compliqué, quoi. On va passer à la dernière partie du podcast. Est-ce que tu as un livre à nous conseiller?
Alors, du coup, comme j'ai parlé de Rand Fishkin, je pense que vous pouvez tous checker son livre, qui est assez cool, qui s'appelle Lost and Founder, où il raconte un petit peu toute sa vie, les up and down. En gros, moi, je t'avoue, ce qui me motive de ouf en tant qu'entrepreneur, c'est quand je lis d'autres articles de mecs qui ont galéré, tu vois, et qui se sont retrouvés tout seuls dans la merde, etc. Ça, ça me motive vraiment. Parce qu'en fait, on a tous, tu vois, là, on n'en a pas forcément trop parlé, mais tu vois, on a eu des gros, gros moments de solitude avec l'Aimlist. Enfin, moi, j'ai eu des gros moments de solitude. Il y a eu des fois où je pensais que le projet, ça allait se terminer. Enfin, tu vois, des embrouilles avec associés, les machins, les trucs. Et en fait, on a tous des moments comme ça. Et le fait de le savoir et le fait de se dire « Ah putain, je suis pas seul », ben ça, juste ça, tu vois, c'est un sentiment qui est vraiment génial. Après, un autre livre, peut-être pour ceux qui ont envie de structurer un peu leur équipe sales, ça s'appelle « The Sales Engagement Formula » de Mark Roberge, qui a bossé chez HubSpot pendant très longtemps. Il est pas mal, il est très cool. C'est un petit livre, mais au moins, c'est très carré et il y a tout ce qu'il faut dedans. Donc, comment structurer ses entretiens pour des sales. Enfin, tout ça, c'est très bien fait et c'est très bien cadré. Et si tu suis ce qu'il te dit, bah, globalement, tu ne te trompes pas trop. Donc, c'est cool.
Super outil, HubSpot au passage.
Ouais.
Est-ce que tu aurais un film à nous conseiller?
Alors, un film que j'ai bien kiffé, que j'ai re-regardé récemment, The Big Short, j'avais bien kiffé, où justement, on parle un petit peu... De la crise qu'il y a eu et t'expliquer un petit peu. Enfin, je trouve que le film est très bien. J'aime bien ces films, tu vois, qui sont très dynamiques et où on t'explique quelque chose qui s'est vraiment passé. Et en plus de l'explication, t'as ce côté vachement entertaining avec, tu vois, le rythme qui est dynamique et des trucs un peu marrants aussi. Donc ouais, c'est un film, voilà, que j'ai maté il y a pas longtemps. C'est pas genre le film non plus, mais c'était cool.
Carrément. Une musique qui te fait kiffer en ce moment?
Alors, bah écoute, je vais ouvrir mon Spotify et je vais te dire ma dernière musique que j'ai rajoutée, hein, parfaitement, de Eddie De Preto,
okay.
Il a fait ça dans Colors et que j'adore Colors.
Ah oui, nice, Colors, c'est génial.
C'est trop stylé.
Et puis, dernière question rapide, c'est si tu pouvais racheter n'importe quelle boîte tu t'achèterais?
Alors, je pense que je rachèterais Salesforce. Et je dégommerais leurs produits pour faire un truc un peu stylé et enfin vraiment tuer mais entièrement tout le marché, quoi. Mais d'abord refaire leur putain de produit.
C'est clair, c'est net, précis. J'ai deux dernières questions pour toi, Guillaume. Y a-t-il une question que tu aurais aimé que je te pose mais que je ne t'ai pas posée?
Ben non, je pense que tu as posé quasiment toutes les questions. Ouais, peut-être une question, ça serait... comment est-ce que les gens peuvent rentrer en contact avec moi s'ils ont des questions? Ça peut être cool.
Carrément. Bah, vas-y, tu peux répondre.
J'y réponds, ok.
Vas-y.
Faut pas hésiter à me contacter sur LinkedIn. Donc, soit avec vous tapez G. et vous allez me trouver. Ou sinon,
tu réponds sur LinkedIn, du coup?
Ouais, je réponds sur LinkedIn. Ou okay. Sinon, par mail, guillaume@lemlist.com.
Très bien. Et ma dernière question, c'est quels sont les entrepreneurs que tu me conseilles pour un prochain podcast?
Alors, entrepreneur, bah, écoute, je pense que tu pourrais contacter peut-être Moritz Dossinger, qui parle français et qui est un entrepreneur qui a revendu deux de ses boîtes en bootstrap. On n'en parle pas beaucoup. Là, il a levé un petit tour avec Tiny Seed. Donc ça aussi, c'est intéressant. C'est une source de financement un peu alternative, un VC un peu différent. Et le mec est super sympa, très cool, très calme, très posé. C'est des gens qui font pas beaucoup de bruit, mais
bah ouais,
qui travaillent en fait.
Mais qui ont pas mal de choses à dire.
Ouais, c'est clair.
Ok, bah super, Rocco, merci à toi. Merci pour cet échange, Guillaume. N'hésitez pas à aller voir ce que l'Aimlist fait donc sur l'aimlist.com. Et puis voilà, on se retrouve dans un prochain épisode.
Ciao François, merci beaucoup.
Ciao. Cet épisode est déjà fini. Un grand merci pour l'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode t'a plu, tu peux me soutenir très facilement en faisant plusieurs choses. Laisser 5 étoiles sur Apple Podcast, ça booste le référencement du podcast. T'abonner via la plateforme audio de ton choix, Spotify, Deezer, Apple, Google, le podcast est présent partout. T'abonner au compte Instagram, @serialentrepreneur avec un underscore à la fin. Et puis t'abonner à la chaîne YouTube du podcast qui est à mon nom, François Lay. Je fais également des vidéos où je raconte des histoires d'entreprise. Tu peux même m'envoyer ton feedback à l'adresse françois@serial-entrepreneur.fr. Voilà, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.